Et si cette année vous vous initiez au geste qui sauve ou deveniez pompier volontaire, une belle façon de se mettre au service des autres, Isabelle Duché.
S'engager pour sauver des vies n'est pas réservé aux professionnels. Tout un chacun peut s'initier au geste qui sauve ou devenir pompier volontaire. Les deux invités de Radio Présence nous y invitent ce matin. Florence Barrier-Vidal et le colonel Laurent Pile. Bonjour.
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 Florence Barrier-Vidal, vous êtes membre du comité de pilotage pour l'organisation de l'événement Les Gestes qui Sauvent, organisé par les clubs Rotary. Cette initiation est proposée à Toulouse le 18 septembre après-midi à l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines. À quel enjeu répond cette initiation?
L'enjeu, il est simple, vous l'avez très bien dit en introduction, il s'agit de sauver des vies. Nous partons d'un constat qui est simple, 50 000 à 60 000 cas de mort subite sont enregistrés chaque année. En France, très peu de gens sont formés à ces gestes qui sauvent. C'est moins de 30% de la population qui est formée aujourd'hui, contre 80% dans d'autres pays européens.
Et on a de la marge.
On a de la marge. Ce n'est pas faute d'avoir des dispositifs. Il existe, hein, des dispositifs dès le collège, dès le lycée aussi, avec des formations diplômantes.
Les fameux PSCR et
Exactement.
PSC1. Et
Ces formations ne sont pas obligatoires.
à l'école, au collège.
Exactement.
Ah bon.
Donc, peu de volontaires pour effectuer ces formations. C'est doublement dommage parce que ça peut aller loin, puisque dans les lycées professionnels, il existe aussi la possibilité de, avec une formation diplômante, bien sûr, d'avoir un statut de sauveteur secouriste du travail, SST, qui est un plus aussi dans évidemment dans le CV lorsqu'on cherche du travail en suivant. Donc le constat, il est lourd. On sait aussi que toutes les minutes comptent lorsqu'on est en présence de quelqu'un qui fait un malaise. On dit souvent que chaque minute sans intervention réduit de 10% les chances de survie. Donc, si l'on peut intervenir très rapidement auprès de la personne qui est en détresse, quelle que soit cette détresse-là, soit on peut lui sauver la vie immédiatement, soit on peut permettre d'attendre l'arrivée des secours avec une forme de confort supérieur.
Oui, c'est ça. Et puis retarder la dégradation aussi des membres vitaux.
Exactement.
Quels sont précisément les gestes qu'on apprend lors d'une telle initiation?
Alors, lors de cette initiation, nous avons quatre, il en existe cinq, mais on ne va pas parler aujourd'hui des brûlures, c'est un petit peu à part. Dans les quatre gestes qui seront proposés en initiation cet après-midi-là, il y a évidemment le massage cardiaque et l'utilisation du défibrillateur. C'est la formation, c'est l'initiation majeure, hein, sur ce temps d'initiation. Mais il y a aussi la manœuvre à effectuer en cas d'étouffement. Il y a la pose d'un garrot en cas d'hémorragie et la mise en position latérale de sécurité, la fameuse PLS,
Oui.
en cas de perte de conscience.
Le défibrillateur, on en voit quand même de plus en plus dans des bâtiments publics.
Oui, tout à fait.
Mais c'est compliqué, enfin, il faut savoir s'en servir.
Il faut savoir s'en servir et ça n'est pas lorsque l'on est dans le feu
Oui.
de
Dans la panique aussi.
voire même la panique et en présence de quelqu'un qui mérite qu'on le soutienne et qu'on l'aide qu'il faut réfléchir et prendre un quart d'heure pour lire le mode d'emploi.
Et comment ça se passe cette formation? Il y a des mannequins qui sont mis à disposition?
Oui, exactement. Nous disposons donc de mannequins. Ces mannequins seront mis à disposition des formateurs qui seront là auprès des personnes qui viendront se faire initier. Et il y aura aussi donc pour chacune des chacun des gestes qui sauvent, autres que le massage cardiaque, un stand spécifique pour chacun, donc pour la manœuvre d'étouffement, pour la pose du garrot et la mise en position latérale de sécurité.
D'accord, donc quand on suit cette initiation, on passe d'atelier en atelier
et on démarre par l'atelier majeur qui est le massage cardiaque.
D'accord, et pourquoi vous dites que c'est spécifique ?
Le massage cardiaque ?
Vous avez dit que c'était un atelier à part ?
Non, parce qu'il est majeur et on démarre par celui-ci
dans
le cadre de cette initiation.
Alors cette initiation, vous l'organisez en partenariat avec le SAMU 31, le SDIS 31, la Protection civile Haute-Garonne, la Croix-Rouge française et la Fédération française de cardiologie, section Midi-Pyrénées. C'est donc ces personnes-là qui forment en fait les volontaires.
Voilà, nous sommes vraiment épaulés par des professionnels. Plus d'une dizaine de formateurs seront là, à nos côtés. Dans le cas précis, les clubs Rotary du Grand Toulouse servent de logistique, sont bénévoles volontaires pour toute cette organisation. Et la mairie de Toulouse nous prête gracieusement la salle de l'auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines. Nous serons ainsi protégés, puisque c'est la seconde édition. La première avait eu beaucoup de succès malgré une pluie battante en novembre dernier. Les gens étaient tellement emballés qu'on a eu envie de recommencer. On s'est vraiment senti utile. Donc on recommence, mais la condition était qu'on soit abrité et que tout puisse se faire tranquillement. C'est quand même 450 personnes qui sont attendues.
Voilà, et vous me disiez en préparant cet entretien que vous aviez déjà 300 personnes qui s'étaient inscrites, donc il reste des places, et c'est pour ça que vous venez aussi nous en parler ce matin. À qui s'adresse cette initiation au geste qui sauve ?
Tout le monde.
Tout le monde. Il y a une limite d'âge quand même ?
Disons qu'on peut démarrer à 10, 12 ans. On a eu des enfants lors de la première session, même des tout jeunes enfants. Puis je vous rappelle ces témoignages, il n'y a pas si longtemps que ça, d'une petite fille qui, tout en appelant le SAMU, alors qu'elle n'avait que 4 ans, a su mettre sa maman en PLS. Donc, vous voyez que tout peut servir. Et je pense qu'en plus, ça peut servir d'exemple. C'est un mercredi après-midi. Les mamans peuvent venir avec les enfants. C'est ouvert à tout le monde.
C'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit.
Et c'est gratuit, bien évidemment. Alors, d'accord. C'est une initiation. Hein. Il n'y a pas de diplôme à l'issue de cette formation. Mais malgré tout, vous aurez quand même une attestation. Il vous sera délivré une attestation d'initiation.
D'accord. Donc, on peut venir à 14h à l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines pour s'inscrire à une session.
Oui,
il y aura
plusieurs sessions toutes les heures, 15h, 16h, 17h, 18h. Et vous pouvez venir dès 14h pour vous inscrire. Il existe aussi un lien pour ceux qui ont la chance de voir les affiches. Il y a un QR code plus difficilement évidemment présentable en radio et un lien. Le lien, je peux vous l'épeler, c'est allofchange.fr/GQS. All of Change s'écrit HAOFCHANGE.fr/GQS, et je vous promets, l'année prochaine, nous aurons un nom de domaine.
Ce sera plus facile. Merci Florence Barrier-Vidal. Je me tourne maintenant vers vous, colonel Laurent Pille. Vous êtes colonel directeur adjoint du SDIS 31. Alors, le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours pour la Haute-Garonne. Ce service organise pour la première fois dans ce département les assises du volontariat les 4 et 5 octobre 2024 à Carbonne. Ces assises visent à renforcer et à pérenniser l'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires. En attendant cet événement, vous allez nous parler justement de cet engagement, puisque les sapeurs-pompiers travaillent en binôme. Il y a les professionnels et les volontaires. Combien de sapeurs-pompiers volontaires êtes-vous dans le département de la
Haute-Garonne ? Alors, dans le département, on compte 1900 sapeurs-pompiers volontaires pour le ratio, donc pour 800, à peu près 890 sapeurs-pompiers professionnels. Et comme on le disait en aparté tout à l'heure, la colonne vertébrale de la sécurité civile en France et le département de la Haute-Garonne n'y déroge pas. La colonne vertébrale, c'est le volontariat, ce sont les sapeurs-pompiers volontaires. Et à l'échelle nationale, vous pouvez compter un peu plus de 195 000 sapeurs-pompiers volontaires pour 43 000 sapeurs-pompiers professionnels.
De quelle formation le pompier volontaire dispose-t-il ?
Alors, c'est tout l'enjeu de ces assises, c'est de mieux nous faire connaître. Jusqu'à une dizaine d'années, on estimait qu'un sapeur-pompier volontaire, pour être recruté, devait savoir tout faire. Le secourisme, l'incendie, les opérations diverses. Quand on parle d'opérations diverses, ce sont les inondations, les interventions en cas d'intempéries. Aujourd'hui, on peut recruter un sapeur-pompier volontaire et...
Pour
une tâche précise et en fonction de ses envies et de ses capacités, parce qu'on peut aussi se jauger de ses capacités, puis aussi d'avoir peut-être une envie progressive de faire les choses les unes après les autres, ce qui peut être aussi une démarche intéressante. Aujourd'hui, on peut vous recruter comme sapeur-pompier volontaire et vous permettre de ne faire que de l'ambulance, de monter à l'ambulance, ce qui représente 80% de nos interventions.
Oui, quand même.
Et ça, on a du mal à le faire savoir. On pense encore qu'un sapeur-pompier volontaire, quand on le recrute, on va lui demander de savoir tout faire dans un délai très court pour être livrable, si je puis dire, dans les centres de secours. Et l'enjeu, en fait, c'est d'avoir des sapeurs-pompiers volontaires. Comme vous le disiez, madame, toutes les minutes comptent. Alors, les minutes, quand il s'agit d'accéder à la victime et de prodiguer les premiers gestes et les gestes qui sauvent. Et les minutes d'intervention, et c'est tout l'enjeu de ces assises, c'est de pérenniser notre modèle de sécurité civile sur le secteur rural et périurbain, avec des sapeurs-pompiers qui puissent armer nos véhicules et en premier lieu les ambulances, et notamment en journée.
Et alors, donc, ces volontaires reçoivent une formation en bonne et due forme par les sapeurs-pompiers professionnels.
C'est ça. Alors, il y a une phase de recrutement, comme dans n'importe quelle institution, en fonction de prédispositions médicales et des tests sportifs, et puis un petit entretien de recrutement. Et après, il y a une phase un peu comme quand on rentre en l'armée, une phase d'habillement. Alors, on ne coupe pas les cheveux, ça, il n'y a pas de souci particulier. Pour ceux qui ont les cheveux longs, il n'y a pas de souci, c'est pas un frein. Parce qu'on a ce modèle-là aussi, hein, qui reste très ancré de brigades un peu militarisées, mais c'est pas le cas du tout.
Ce ne sont pas les sapeurs-pompiers de Paris.
C'est ça. Il faut sortir de ce modèle-là et on a du mal à le faire. Et après, donc, vous avez une phase d'habillement et une première phase de formation. La formation au secourisme, le secours d'urgence aux personnes, qui dure une semaine. Et après, vous rentrez tout doucement en immersion dans les centres de secours pour pouvoir s'aguerrir, prendre des gardes dans les centres de secours. Et puis après, pour pouvoir être complètement autonome et puis de monter à l'ambulance.
Mmh. Comment ça peut être conciliable avec une activité professionnelle ? Est-ce que dans les entreprises que vous allez voir, vous expliquez qu'il y a un temps qui peut être mis à disposition pour la formation et puis pour cet engagement volontaire ?
Vous avez raison, c'est aussi un enjeu fort de ces assises, c'est de renouer peut-être le lien avec les employeurs. Et je pense véritablement que ce n'est pas forcément de la faute de l'employeur, c'est qu'il faut qu'on se développe en termes de VRP, parce qu'on a tout un tas de dispositifs qui permettent aux employeurs qui emploient des sapeurs-pompiers volontaires de les libérer sur du temps de travail. Alors, à minima, pour une période de formation, ce qui permet aux sapeurs-pompiers volontaires de ne pas poser des journées de congé, de pouvoir se former.
Cette semaine-là.
Et ça, c'est précieux, notamment pour préserver le temps familial, soit pour la formation et ou pour l'opérationnel, pour ceux qui emploient des sapeurs-pompiers volontaires qui sont directement impactés par le secteur opérationnel qui est défendu. Donc, il faut qu'on renoue ce lien-là. On va faire venir les employeurs sur les assises pour échanger avec eux, parce que si l'enveloppe est belle, c'est vertueux pour tout le monde, c'est vertueux pour l'employeur, c'est vertueux pour le sapeur-pompier volontaire, c'est vertueux pour le territoire de pouvoir s'engager au profit de la population, au profit des citoyens, et puis de raccourcir ces délais d'intervention. Mais on accepte d'entendre qu'il y a quand même des difficultés de mise en œuvre au sein des entreprises et chez les employeurs, et il faut qu'on aille les aider pour mettre un petit peu d'huile dans ces rouages.
Voilà, puissent-ils vous entendre ce matin. Merci colonel Laurent Pille, merci Florence Barry-Vidal. Je rappelle les dates des prochains événements. Initiation au geste qui sauve mercredi 18 septembre de 15h à 18h à l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines à Toulouse, organisé par le Rotary, et les assises du volontariat les 4 et 5 octobre au centre socioculturel du Bois de Castres de Carbonne, pour tout connaître de l'engagement de pompiers volontaires organisé par le SDIS 31.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.